Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous si tôt en ce jour férié. Et merci à toutes et à tous, de plus en plus nombreuses et nombreux, qui nous écoutent en différé en passant par le podcast du Réveil culturel, disponible entre autres sur franceculture.fr. Tous les mercredis, on parle cinéma et de l'actualité ciné dans le Réveil culturel. Et aujourd'hui, on va parler d'un documentaire, parce qu'aujourd'hui sort au cinéma le film de la réalisatrice Barbara Miller, Female Pleasure, qui questionne les rapports conflictuels entre les cinq grandes religions que sont le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et le corps féminin. Et pour nous en parler, deux journalistes, René Grezard et Clarence Edgar Rosa. Et il flotte déjà une odeur de muguet dans le studio des Petits Matins de France Culture. Corinne Amar et Maël Ray sont à la coordination, Alain Joubert à la prise de son. Le Réveil culturel est réalisé par Vincent Abouchard.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Et le documentaire Female Pleasure, qu'on peut voir donc au cinéma dans quelques salles d'art et d'essai à partir d'aujourd'hui, dresse le portrait de cinq femmes de confessions différentes qui se battent pour faire changer, disons, les mentalités dans leur pays et vivre leur sexualité librement. Bonjour Clarence Edgar Rosa.
Bonjour.
Vous êtes née en 1989, vous êtes journaliste, aujourd'hui à Marie-Claire, et depuis quelques années, vous vous occupez justement du féminisme, du genre, de la sexualité. Donc vous avez vu ce film, première réaction.
Moi j'ai beaucoup aimé ce film, qui est pas du tout en fait un film sur les religions, vraiment c'est pas du tout le sujet central, c'est vraiment un film sur le patriarcat et toutes les manières... très créative, mais en même temps toujours les mêmes avec lesquelles la société dans laquelle on vit essaye de contrôler le corps des femmes et plus particulièrement leur sexualité. C'est un film qui tourne autour de personnages féminins qui sont...
débattantes, on peut le dire.
Ouais, qui sont toutes des femmes très intéressantes, qui chacune à leur manière essaye de se battre plus ou moins collectivement, enfin voilà, avec les femmes qui les entourent et pour les droits de celles qui les entourent. C'est-à-dire que c'est pas des combats individuels, c'est vraiment très politisé dans leur esprit à chacune. C'est toujours hyper inspirant d'entendre ces femmes-là raconter leur parcours.
René Grezard, également né dans les années 80 et également journaliste pour différentes rédactions et radios. Là, vous travaillez pour Rue 89.
Exactement.
Et vous êtes spécialiste aussi de ces questions-là.
Oui.
Vous avez vu le film ?
Tout à fait, j'ai vu le film.
Et alors ? Verdict ?
Alors, moi je l'ai trouvé super aussi, j'ai trouvé comme Clarence que ces femmes sont inspirantes, qu'elles sont fortes et que c'est des beaux modèles de femmes. Après j'ai une petite réserve, c'est que finalement en fait ce qu'on voit c'est le patriarcat qui s'exerce sur des cas très spectaculaires. Donc on parle d'une jeune femme qui a été violée quand elle était dans les ordres parce qu'elle était c'est quoi exactement le terme, enfin
elle était bonne sœur.
Bonne sœur, voilà. On parle de femmes excisées et bien sûr tout ça existe, c'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout dire que ça existe pas. Mais voilà, enfin il y a quand même des choses qui encore aujourd'hui arrivent tous les jours et qui sont liées à cette culture religieuse, à la façon dont on a, il y a des chercheurs qui disent exciser psychologiquement aussi les femmes, c'est-à-dire comment on a invisibilisé leur sexualité, enfin leur plaisir sexuel plutôt. Et je trouve que finalement c'est peu abordé dans le film, et alors que c'est ce qui constitue notre quotidien, c'est ce qui fait qu'une adolescente sur quatre ne sait pas qu'elle a un clitoris. Donc enfin voilà, j'aurais juste aimé peut-être que dans le documentaire on sort un tout petit peu du spectaculaire à un moment donné pour dire que c'est pas juste des femmes excisées, des femmes violées par des prêtres, des femmes en Inde qui n'ont pas le droit d'aimer. Enfin, il y a aussi des choses très concrètes et quotidiennes.
Female Pleasure de Barbara Miller qui sort donc aujourd'hui au cinéma.
We live in an environment where women are constantly judged.
女性は男性のイメージ通りでなければ嫌われます。
What is it that happened billions of years ago that they felt they had to do this to our bodies?
The concept of love does not exist in India.
In der Welt, in der ich gelebt habe, war ich als Frau eine Gefahr.
I was 17 years old. I was to have intercourse with someone I didn't know.
It's about controlling women's sexuality, and that's a global issue.
人口は奉られているのに。
自分の
An artist in Tokyo has been arrested for 3D printing an image of her vagina.
À travers cinq exemples, cinq femmes qui, dans différents pays, issues de différentes cultures, se sont battues contre la diabolisation universelle, on peut le dire, structurelle, on peut le dire aussi, et millénaire du corps féminin à partir de prétextes religieux. La réalisatrice Barbara Miller a donc réalisé ce documentaire « Female Pleasure ». Ce qui est quand même important dans ce documentaire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que Clarence Edgarosa et René Grosard, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces questions-là, c'est que, pour une fois, la problématique est clairement exposée. Ce n'est pas une histoire de droit entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une histoire aussi de religion. Ça a été dit plus d'une fois dans ce documentaire et c'est pour ça qu'ils ont pris toutes les grandes religions du monde. Ça a à voir avec la sexualité. Et les cinq femmes voudraient régler ce problème, enclencher un débat autour des pratiques sexuelles.
Oui, enfin, c'est pas tant les pratiques sexuelles qui sont en question ici, hein. C'est vraiment le corps des femmes. Au final, il est assez peu question, je crois, de sexualité. On parle pas énormément de plaisir, vraiment. On parle surtout de se défaire de ce contrôle qui est permanent, qui est parfois extrêmement violent. Et c'est même la première étape avant même de pouvoir parler de plaisir. En vérité, on parle juste de liberté.
Là où il y a un vrai truc, c'est vrai qu'il est lié au plaisir sexuel, c'est que le plaisir sexuel des femmes a été contesté. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, notamment le clitoris, quand je parlais d'invisibilisation tout à l'heure, c'est le seul organe humain en fait qui soit dédié qu'au plaisir. C'est-à-dire que en fait pour faire des bébés, on n'a pas besoin d'un clitoris, c'est juste un organe qui est lié au plaisir. Et donc on se rend compte que toute cette dimension là qui est une dimension de plaisir pour les femmes, de connaissance d'eux-mêmes, voilà, et un organe qui a été maltraité. Et donc moi j'ai l'impression que finalement c'est un peu le combat qu'il y a beaucoup en ce moment et qu'on retrouve beaucoup chez des Instagrammeuses qui lancent des comptes. Je pense à Jouissance Club, à La Prédiction, ou plein de nanas comme ça. Mmh. T'as joui, qui essayent de montrer que en fait le clitoris est le début d'un combat politique pour que les femmes effectivement puissent reprendre la possession de leur corps et voilà. Mais donc je suis d'accord avec Clarence. En fait, c'est un combat sur le corps des femmes. Et il se trouve que je sais pas si c'est le début ou si c'est la fin, mais le clitoris, c'est quelque part au début ou à la fin, quoi.
Non, mais quand on voit cette artiste japonaise qui travaille autour, justement, du sexe féminin, quand on voit cette patente indienne qui décide de créer un site entièrement dédié à la sexualité des hommes et des femmes, et en mettant à égalité le plaisir des hommes et des femmes, n'est-ce pas là le terrain de bataille du nouveau féminisme?
Oui, enfin, c'est évident que c'est un sujet fondamental et c'est un sujet fondamental pour la troisième vague du mouvement féministe dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un sujet qui est central pour les jeunes générations de filles et de garçons qui militent aujourd'hui pour l'égalité des hommes et des femmes. Donc oui, c'est absolument central. Après, là où pour moi, c'est pas, encore une fois, pas totalement le sujet premier du film, pour moi, il est plus question de contrôle des corps que de sexualité. C'est qu'encore une fois, vous citez cette militante indienne, son initiative, elle parle presque parfois plus d'amour, de respect mutuel, d'écoute, voilà, de communication non violente entre les garçons et les filles, de viol aussi, de violence et de comment y remédier, plutôt que de sexualité à proprement parler. La japonaise, elle est aussi hyper intéressante. Enfin, c'est un personnage qui est génial, elle est hilarante, voilà. Elle fait quand même un kayak avec un moulage de sa vulve. Mais c'est intéressant parce que pendant tout le film.
Au Japon, et ça c'est bien expliqué dans le film hashtag Female Pleasure, dans son pays, on peut jouer avec le sexe masculin, le représenter, mais c'est interdit pour le sexe féminin.
Oui, le sexe masculin, de toute façon, est omniprésent dans les représentations, dans la culture japonaise, donc elle est en plus dans un territoire particulièrement de contraste, dans lequel c'est insupportable qu'on lui dise qu'elle ne peut pas représenter un sexe féminin, alors que le sexe masculin est partout. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans toutes les séquences où on la voit, elle utilise le mot vagin pour parler de sa vulve, et ça, pour moi, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que même une militante de la question, qui est par ailleurs filmée par une autre militante, la réalisatrice...
Barbara Miller, pour la citer.
On peut passer un film entier à parler de la vulve en disant vagin. Et ça, je trouve ça assez terrifiant. Ça veut dire que même quand on est vraiment la tête dans le guidon de ce combat, on peut quand même participer de la mauvaise représentation et du coup, in fine, de la méconnaissance du sexe féminin par les femmes elles-mêmes. Je pense qu'on peut facilement pleurer devant ce film qui n'est pas un film joyeux. Après, c'est un film qui est... Il y a quelque chose de très grisant parce que ces cinq personnages-là, elles sont jamais... Leur route ne se croise jamais, elles ne se rencontrent pas, elles ne se parlent pas.
Elles n'habitent pas le même monde.
Elles n'habitent pas le même pays. Elles vivent des choses extrêmement différentes. Elles n'ont aucune idée que l'autre est en train de vivre quelque chose de drastiquement opposé à ce qu'elles vivent, même si les mécanismes au fond sont les mêmes. Mais on a l'impression d'un mouvement global. On a l'impression qu'elles participent de la même... vague, de la même mouvance, et ça c'est assez grisant à regarder, surtout quand on est déjà acquis à la cause comme c'est mon cas. Donc en ce sens c'est un film qui est joyeux, c'est un film qui est c'est sûr moderne. Il est aussi terrifiant, je pense que pour des gens qui ne sont n'ont pas idée de cette question-là et qui sont encore à convaincre sur le bien fondé des arguments féministes, c'est un film qui peut être brutal. Je pense notamment à tout le passage sur l'excision. Bon, c'est à peu près la version la plus violente physiquement, la plus sanglante et la plus terrible du point de vue physique de la manière dont le patriarcat peut s'exercer sur une femme ou une petite fille. Ça, je pense que quelqu'un qui est pas du tout concerné, intéressé, documenté sur la question, ça peut être quelque chose de très brutal. Donc en soi, ça c'est très bien. Il faut qu'il soit vu ce film.
It's very difficult to have men talk about things which actually questions their masculinity.
Women need to remember that they actually own their bodies.
A female body is just as precious, just as valuable as a man's. We cannot isolate the role of men and the role of women. It's not a question of fixing one gender before the other. We all have to change.
René Grossard, j'ai oublié aussi de préciser que vous-même aussi, en 2006, vous avez publié une enquête plutôt drôle qui déconstruit les idées reçues et les analyses tenaces sur la grossesse et qui a pour titre « Enceinte, tout est possible » publié chez Lattès. Est-ce que vous avez le même regard sur ce documentaire que votre consoeur Clarence Edgar-Rosa?
Oui, moi non plus, je dirais pas que c'est un film joyeux. J'ai pleuré devant, donc.
À quel moment vous avez pleuré?
Il y a un passage qui est vraiment très, le passage dont parlait Clarence, hein, sur
La Somalie.
Voilà, il y a une réunion de femmes, moi je suis toujours très émue par des femmes qui sont réunies et qui disent ensemble qu'elles ont souffert du patriarcat. C'est quelque chose qui me met la chair de poule à peu près immédiatement, quoi. Et je trouve pas ça faible, je trouve ça fort. Je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant qui se dégage de ces moments-là où les femmes se tiennent par la main et disent qu'elles ont vécu quelque chose de douloureux. Moi, c'est quelque chose... je suis sensible à ça. Sur le film, je trouve que ça participe, je trouve, d'un mouvement global qui est en ce moment sur la sexualité, qui est de dire... j'ai commencé à parler de la sexualité il y a 10 ans sur 89, et il y avait des sujets qui étaient très tabous et qui, aujourd'hui, le sont beaucoup moins... mais je pense même pas qu'à la sexualité des femmes, hein. Il y a la sexualité des hommes, notamment avec la question du point P, par exemple, l'orgasme, le plaisir prostatique. Je pense aussi à des termes qui avaient l'air très militants il y a 10 ans, la question d'une sexualité phallocentrée, qui aujourd'hui sont beaucoup plus répandues et connues de beaucoup de gens. Donc, en gros, on comprend que la sexualité est un point de départ pour les femmes et les hommes. Pour s'affranchir de normes qui sont enfermantes et liberticides et qui permettent, le but quand même du féminisme, c'est quand même que tout le monde soit plus heureux à la fin, quoi. Donc je trouve que le documentaire participe d'une manière, encore une fois, que je trouve très spectaculaire, avec des cas qui sont très violents, et c'est très bien qu'on en parle, à cette libération qui est en cours. Et effectivement, quand tu parlais de troisième vague du féminisme, on est dedans, quoi. De femmes qui cherchent à reprendre le pouvoir sur leur corps d'une manière joyeuse aussi, par la sexualité. Mais bon, là, on l'exprime dans une manière qui, effectivement, n'est pas du tout joyeuse avec ce documentaire.
I got so much love, so much more. So much more love to give. I got so much more, so much love, so much more love left to give. So much pleasure pulls me like I never saw. I have
this before.
Marianne Faithfull, parlant de plaisir sexuel sur France Culture pour le petit matin et pour le réveil culturel consacré à la sortie de ce film, hashtag Female Pleasure, qui raconte l'histoire de cinq destinées, on peut le dire, hein, cinq personnages féminins. La juive new-yorkaise Deborah Feldman, qui, elle, va essayer de s'émanciper du carcan de sa famille ultra-orthodoxe dans le quartier de Williamsburg. Il y a aussi à Mogadiscio la Leila Hussein, donc là, on est en Somalie, et là c'est peut-être les moments les plus durs. On en a parlé en première partie de l'émission avec Clarence Edgar Rosa et René Grezard, nos deux invités, deux journalistes. Il y a la japonaise qui, elle, doit faire face à une famille traditionnelle bouddhiste. Doris Wagner, qui, elle, a grandi dans une famille catholique protestante en Bavière où elle a été violée. Puis enfin, dans un contexte de l'Inde d'aujourd'hui et dans une culture hindoue, il y a Vidika Yadav. Que dit ce casting de la réalisatrice?
Moi, je pense que l'intention est assez simple, c'est d'avoir une des femmes dans les cinq coins du monde. Enfin, donc d'avoir
et les cinq religions.
Et les cinq religions, voilà. Donc c'est juste de montrer que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'exerce en fait partout dans le monde de la même manière sur le plaisir féminin, comme si ce plaisir avait effrayé et sur le corps des femmes. Enfin voilà, on partout dans le monde, on a essayé de brimer. D'étouffer le plaisir et le corps des femmes.
Alors, elles sont toutes en rupture avec leur milieu. Hein. Par exemple, Deborah Feldman, elle quitte New York, elle quitte Williamsburg pour vivre à Berlin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Clarence Edgar Rosa, vous qui avez vu aussi ce film en avant-première, film qui sort aujourd'hui, je le rappelle?
Ben, moi, j'ai été très impressionnée par cette femme, je la trouve absolument incroyable, je la connaissais pas, du coup, j'ai fait des recherches sur elle, elle est impressionnante, et il faut voir à ce sujet-là aussi un documentaire qui est visible sur Netflix en ce moment, justement sur cette communauté juive de Brooklyn, voilà, qui exerce un contrôle absolu sur les familles, et spécifiquement sur les femmes, parce que ça permet de davantage comprendre vraiment les pressions auxquelles elle fait face, et puis vraiment la fermeture de la terrible vraiment communauté à laquelle elle tourne le dos, et tous les risques qu'elle prend en le faisant, parce qu'on c'est totalement lunaire quoi ce qu'elle fait. Elle a une force absolument incroyable, donc moi c'est l'un des personnages qui m'a le plus impressionné, mais je voudrais rebondir sur quelque chose que disait René tout à l'heure, que je rejoins, c'est que c'est des femmes qui sont absolument incroyables. Toutes de manière différente. La japonaise, elle est pas du tout le même genre de femme.
Ouais, bah elle est artiste, la japonaise.
Mais elle
ouais.
est hilarante, elle est géniale, et puis elle a une telle légèreté, mais en même temps, elle est tellement jusqu'au boutiste dans sa quête qu'elle en est géniale aussi. Mais c'est vrai que c'est des profils de femmes totalement, spectaculaires. Et en effet, on n'a pas besoin d'aller sur des parcours aussi incroyables pour faire la démonstration de ce problème-là. Et c'est vrai que c'est ce que relevait René. Je je suis d'accord. En ça, je trouve que c'est intéressant pour plein de gens qui ne se questionnent pas sur ces sujets-là et qui peuvent se prendre un peu la claque dans la tronche qui peut leur permettre de se documenter davantage. Donc ça, je trouve que c'est plutôt vertueux. Par contre, ça peut avoir un peu l'effet inverse en retour de bâton, qui est un petit peu de laisser entendre qu'il n'y a que par ces cas absolument spectaculaires que ce patriarcat s'exprime. Or, il s'exprime de façon aussi beaucoup, beaucoup plus subtile, beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus quotidienne. Et moins spectaculaire tous les jours autour de nous.
Par exemple, on va au Japon pour montrer donc cet artiste.
Oui, René Grossard.
Voilà, on va au Japon pour montrer cet artiste qui a pas le droit de représenter sa vulve. Et en fait, on pourrait. Enfin, moi, il y avait juste des moments où j'avais envie de dire, mais en France, est-ce qu'on a déjà vu un clitoris dessiné sur un mur ou un sexe féminin dessiné sur un mur? Quand quelqu'un dessine un sexe sur un mur, c'est toujours un pénis de toute manière. Et pourquoi? Parce que, enfin, le sexe des femmes est complètement invisible et que c'est pas quelque chose qu'on montre. Et enfin, si on demande à quelqu'un de dessiner une vulve ou un clitoris, honnêtement. Enfin, vous pouvez faire le test, hein. C'est une catastrophe. Les gens ne savent pas représenter un sexe féminin. Donc, enfin, on va au Japon pour montrer ça, et c'est super de voir que cette fille existe. En plus, elle est géniale, elle est hyper créative, elle est drôle, elle est super. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie de dire, regardons aussi ce qui se passe chez nous. Est-ce qu'un adolescent de 15 ans est capable de dessiner un utérus? Ou, enfin, parce que là, je vais plus loin encore, mais
je vais trop loin là.
Je vais beaucoup trop loin. Mais est-ce qu'un adolescent ou une adolescente est capable de dessiner? Bah, il y avait des chiffres, hein, d'ailleurs, que j'avais pris parce que je me disais que ça pouvait vous intéresser, mais 84% des filles de 13 ans ne savent pas comment représenter leur sexe, alors qu'elles sont 53 à savoir dessiner un sexe masculin. Donc en fait, tout ce que ça dit, c'est que tant qu'on n'aura pas ces connaissances, les femmes ne seront pas libres. Savoir à quoi ressemble son corps, c'est le début de la liberté aussi.
Et enfin, pour terminer, Clarence Edgarroza.
Moi, je suis en train de finir un livre exactement sur cette question, donc j'ai vraiment complètement la tête dedans. Je trouve que c'est en effet...
Pour dire quoi, au juste? Vous écrivez un livre pour arriver à nous faire ouvrir les yeux sur... Quel aspect justement de
précisément ce qui était en train de dire René, que je rejoins. Pour moi, une des urgences là aujourd'hui, c'est que les femmes s'autorisent à connaître leur propre corps. C'est-à-dire que en effet, là, je sais pas aujourd'hui.
Ce qu'elles font les femmes de ce documentaire hashtag female pleasure.
Oui, tout à fait. C'est absolument. C'est une manière de se documenter. En effet, ce film sur la manière dont cette domination à l'égard des femmes s'exprime. Mais c'est vrai que. Je pense que vraiment une des choses, un des leviers les plus pertinents là aujourd'hui pour qu'on avance sur cette question de la sexualité féminine et de l'appropriation aussi des savoirs gynécologiques, médicaux, pour que les femmes soient plus seulement des patientes qui subissent la médecine, mais qu'elles en soient davantage actrices, c'est effectivement qu'elles apprennent à connaître leur corps. Mais ce que ce film montre aussi, c'est vraiment l'un des enjeux de ce problème-là, c'est que y a une auto-censure des femmes sur ce sujet-là. C'est la première étape, c'est vraiment de s'autoriser à connaître son corps et à se dire déjà que ça nous intéresse, que c'est important et que potentiellement ça peut nous apporter quelque chose et que la sexualité n'est pas quelque chose qu'on offre à quelqu'un mais qu'on a pour soi.
Je pense à plein d'autres combats qui peuvent être menés aujourd'hui, notamment sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme libre et être mère, qu'est-ce que c'est qu'être une femme libre et être enceinte. Enfin bon, ça c'est mes sujets à moi aussi, mais
pour revenir sur le film qui sort aujourd'hui de Barbara Miller.
Ben en fait, ce qui est sûr, c'est que le corps des femmes est pour moi l'enjeu effectivement du féminisme et donc du coup encore des luttes à venir et là ça s'exprime sur la sexualité d'une manière très particulière parce que c'est un enjeu de liberté, mais oui, c'est sûr que c'est une lutte d'aujourd'hui et de demain. Quoi. I go to the hill full throttle full on. Fill the bottle and I take it strong. Come a little closer, can you hear my thong? What's the matter, boy? I say something wrong. Take my pulse and add in song. Smoke a little cigarette and join my cup. I get results, do a somersault. Think you got the combination, crack that vault. No roast, just coast. I'm the virus, you're the host. Up in the cracks, I take you to another place for making contact. Relax, slip in the cracks, I take you to another place you never wanna come back. I'm the real season's velveteen. Just press start on my main machine. Sight unseen, another Halloween. Stretch 16 on my mossy green. Bam, 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 is how the party began. Wham, 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 is how I potted the dam. Taking a stand, bringing the glam. Shazam, I'm a Wonder Woman. Ground floor.
French, don't what you running from?
Relax, sip in the grass. I'll take you to another place, we're making contact. Relax, sip in the grass. I'll take you to another place, you never wanna go back.
Merci René Grosard et merci Clarence Edgar Rosa d'être passé ce matin pour nous parler de la sortie de ce documentaire sorti dans quelques salles d'art et d'essai. Hashtag, allez les filles, aidez-moi. Hashtag
female pleasure.
De Barbara Birker, qui sort aujourd'hui. Bon 1er mai, merci d'être sur France Culture.